Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 juin 2026. Vous écoutez Méditons ensemble avec le révérend Jean-Claude Coffi. Nous atteignons aujourd'hui la 30e partie du thème « Ce monde que nous devons haïr ». 5 textes de référence feront l'ouverture de notre méditation. Nous commençons par Genèse chapitre 1, verset 1. Il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Jean chapitre 1, verset 1 à 5, verset 9 à 11 et verset 14 à 15. Commençons par le verset 1 à 5. Il est écrit « Au commencement était la parole ». Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. 9 à 11. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Versets 14 à 15. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. 1 Timothée 3, verset 16, il est écrit « Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Exode 3, verset 14 à 15, il est écrit « Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » Psaume 14, versets 1 à 3, il est écrit « Au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » À l'entame de la sous-série que nous poursuivons aujourd'hui encore, nous avons vu, grâce à l'argument cosmologique, que la création révèle la divinité. Dans la méditation d'hier, nous avons renchéri sur ce point pour souligner que la création fait partie des modes ou moyens principaux par lesquels la divinité ou Dieu se fait connaître à l'humanité. Les propos transcrits par Paul dans son épître aux Romains illustrent avec force détail à quel point une observation intelligente de la création devait suffire à l'homme pour croire en l'évidence de l'existence de Dieu, mais que nenni. Romains 1, versets 19 à 20, dans la version « Parole vivante » nous dit « En effet, nul n'est dépourvu de la notion du vrai Dieu. Tous les hommes ont une connaissance innée de lui, lui-même l'ayant placé avec netteté dans leur cœur. Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes de ses perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel et tout ce que Dieu a créé ont connu son existence et son pouvoir éternel. Ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas si Dieu existe. » Romains 1, 19 à 20, version Parole vivante. La mère constat est que l'homme, plutôt que d'être attentif à la façon dont Dieu se révèle à travers la création, a choisi au mieux de vénérer les éléments de la création ou la création elle-même, au pire, faire fi des indices que la création nous donne au sujet du Dieu créateur. Face à une telle évidence, il faut être hors de sens pour nier l'existence de Dieu, selon Psaume 14, verset 1. C'est cet état des choses, entre autres, qui justifie un droit de réponse de notre part, mais un droit de réponse basé sur la parole de Dieu, laquelle est claire comme de l'eau de roche. Car dans le cas d'espèce, si on ne répond pas à l'insensé, il pourrait se prendre pour un sage. D'où l'artillerie déployée depuis quelques jours afin de renverser les forteresses érigées par les allégations qui promeuvent la négation de Dieu. À cette fin, outre l'argument cosmologique, nous avons analysé les arguments téléologiques, anthropologiques, ontologiques, morales, biologiques, historiques et bibliologiques. À présent, et pour conclure notre démarche, nous allons considérer l'argument christologique et brièvement l'argument de la congruité. Nous commençons par l'argument christologique. C'est l'argument le plus pertinent, le plus poignant, le plus affilé, le plus tranchant, le plus incisif. Il stipule que la personne et l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ témoignent, sans qu'il soit nécessaire de convoquer d'autres arguments, de la réalité ou de l'évidence de l'existence de Dieu. En effet, le Christ dans l'histoire est un fait indéniable. Et oui, soustraire Christ de l'histoire de l'humanité revient à faire subir à l'histoire une spoliation, une extorsion qui la rendrait méconnaissable, lacunaire, fragmentaire, inaboutie, voire totalement amphigourique, abstruse, absconce, incompréhensible. Nul ne peut objectivement retirer Christ de l'histoire de l'humanité puisqu'il n'est pas un personnage tiré d'une fable, loin s'en faut. Christ a bel et bien existé, autrement ce serait incongru de dire avant ou après Jésus-Christ, pour situer dans le temps des événements majeurs qui se sont produits dans le cours de l'histoire. Étant donné que l'existence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est historiquement indéniable et que Christ est Dieu fait chair, c'est-à-dire Dieu sous forme humaine, il va de soi que sa personne est la preuve ultime de l'existence de Dieu. Le Seigneur Jésus n'avait-il pas dit « Celui qui m'a vu a vu le Père » et « Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Lisons le texte en entier pour mieux apprécier sa quintessence. Dans Jean 14, versets 8 à 11, il est écrit « Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, « Montre-nous le Père ?» Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jean 14, 8 à 11. En effet, le Seigneur Jésus-Christ a été dans ce monde le plus illustre, le plus digne représentant de Dieu. La Bible le présente dans Colossiens 1, versets 15 à 19, comme l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Colossiens 1, 15 à 19. Incontestablement, je cite, « Lui, en lui habite toute la plénitude de la divinité. » Colossiens 2, verset 9. Dit autrement, en reprenant le rendu de la version « Parole de vie », Dieu habite totalement dans le corps glorieux de Christ. Aussi devez-vous veiller à ce que personne ne vous dépouille de votre foi et ne fasse de vous ses prisonniers par une philosophie trompeuse et décevante. De tels enseignements s'inspirent de traditions de ce monde, toutes humaines et élémentaires, et qui n'ont rien à voir avec le Christ. Colossiens 2, verset 8, version Parole vivante. Au regard de tout ce qui précède, admettez avec moi que personne, à moins d'avoir l'intelligence obscurcie, ne peut, en considérant Christ, nier que Dieu existe. Pour conclure, et comme annoncé plus haut, permettez que mention soit faite du dernier argument, celui de la congruité. Le mot congruité veut dire conformité, accord, harmonie, correspondance. Ici, notre attention est attirée sur le fait qu'il n'y a aucune discordance entre les 9 arguments examinés. Cette harmonie rehausse le niveau de cohérence des arguments analysés tout au long de la présente sous-série. C'est cela l'argument de la congruité. Et c'est sur ce point que nous bouclons l'argumentaire contre les théories fallacieuses et trompeuses de la négation de Dieu. Sur ce, voici notre mot final qui se trouve dans Hébreux 11, versets 3 à 6. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 3 à 6. Le lundi prochain, nous méditerons sur le tentacule représenté par le sionisme, avec pour objectif de nous permettre d'avoir, vis-à-vis d'Israël, la posture qui convient en tant qu'enfant de Dieu. À retenir, la création révèle Dieu. Le Christ est la révélation ultime et parfaite de Dieu. Il est l'image et la plénitude de la divinité. L'existence de Christ étant un fait historique indiscutable. Or, Christ, c'est Dieu fait chair. Christ ayant existé dans ce monde, son existence témoigne de l'existence de Dieu. En outre, on observe que tous les arguments en faveur de l'évidence de l'existence de Dieu sont concordants. Cette concordance est la preuve de leur cohérence. Nous devons, sur cette base, comprendre que Dieu existe et nous pouvons prouver son existence. Fort de tous ces arguments examinés, allons et proclamons avec fierté qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, savoir Jésus-Christ, la plénitude de la divinité. Puisse le Seigneur nous faire faire des exploits avec Dieu, selon Psaume 60, verset 14. Excellente et heureuse fin de semaine en Christ. Signé, votre serviteur, le docteur Jean-Claude Coffi, ce vendredi 5 juin 2026.